s'est passé quelque chose, indéniablement. Alors vous savez, certains disent que la honte a commencé à changer de camp, qu'une vague a déferlé, que l'écoute se libère, qu'un tabou est en train de se briser. Autant de formules étrangement figées au regard des témoignages qui ont suivi, il y a un an exactement, la publication du livre de mon invité. En moins d'une semaine, sur les réseaux sociaux, près de 100 000 tweets sont publiés, accompagnés du mot dièse, hashtag MeTooInceste. Ce sont des messages en peu de signes, comme le réseau social l'exige, mais ils se déclinent à l'infini, à tous les temps, passé ou présent, et à la première personne. Ils sont anonymes, souvent, et ne visent pas à dénoncer quelqu'un, mais à énoncer quelque chose. C'est ça qui est frappant. Dans la lignée du mouvement MeToo, initié 4 ans auparavant, c'est qu'ils témoignent d'abord de l'urgence d'une parole. Il faut se souvenir de ce que peut un livre, qu'il s'agisse des écrits de Christine Angot depuis plus de 30 ans, de la consolation de Flavie Flamand, du consentement de Vanessa Springora et de centaines d'autres, si on s'y penche un peu. Ce que peut un livre à la première personne, c'est non seulement trouver une résonance auprès d'une multitude, mais c'est surtout permettre d'autres récits, catalyser d'autres paroles, changer le jeu en nous. Et même quand on parle pas, quand on garde l'inceste au fond de soi, quand on le raconte autrement, avec des gestes, des silences, des comportements, il se passe quelque chose.
Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Le livre de mon invité d'aujourd'hui a produit quelque chose. Avocate, maître de conférences en droit, elle faisait paraître, il y a un an exactement, La Familia Grande, immense succès de librairie puisque vendu à 350 000 exemplaires, traduit dans 15 langues, un livre qui sort enfin en poche aujourd'hui, où elle retrace son histoire et raconte comment le silence autour de l'inceste commis sur son frère jumeau emprisonne, empoisonne et détruit. Bonjour Camille Kouchner.
Bonjour Augustin.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Un an après, vous pouvez témoigner de tout ce que peut un livre. C'est quelque chose que vous aviez anticipé ?
Je l'avais absolument pas anticipé pour mon livre à moi. Après, je lis beaucoup et la littérature produit ça, produit l'universel, vient me chercher. Je lis pour me retrouver dans chacun des récits des auteurs que je choisis. Je suis extrêmement touchée et heureuse que mon livre ait produit ça aussi.
Qu'est-ce que l'accueil et le retentissement de ce livre a provoqué en vous ?
D'un point de vue personnel, je pense que voilà, c'est la littérature. La littérature vers cet universel, c'est créer le lien. Et quand on est dans des sujets aussi compliqués, quand on est dans des sujets d'agression, pour moi, l'inceste et toutes les agressions sexuelles, en fait, elle repose sur le fait de faire de l'autre un objet, de le réifier absolument. Quand on est témoin de ça, témoin, dans son enfance, on est aussi réifié. Quand on est contraint au silence, on est aussi réifié. On est un objet. Et donc, le fait d'avoir été lu m'a permis de redevenir sujet, d'une certaine manière.
Alors c'est passionnant, en quoi ce livre a changé quelque chose pour vous, évidemment, pour votre propre famille également, mais surtout, à la lumière de tous les témoignages que vous avez reçus, pour le plus grand nombre, pour la compréhension et la reconnaissance de ce que c'est que l'inceste.
Oui, mais je pense qu'il fallait de la littérature. Alors Christine Angot avait commencé bien avant moi, Adélaïde Bon aussi, enfin, il y a plein d'auteurs, mais ces sujets-là nécessitent de prendre du temps, de s'expliquer longuement, de choisir ses mots, et aussi, je crois, de laisser place au silence. Et la littérature permet ça. Il y a plein de silences dans ces livres-là, et c'est des silences qui visent aussi à dire l'indicible.
Mais qui produisent, je le disais, qui catalysent quand même de la parole. Je pense aux témoignages sur les réseaux sociaux, sous le hashtag MeTooInceste. Je pense aussi au lancement de cette commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, la CIVIS. Je pense aussi à une loi du silence qui se brise pour des milliers de personnes et de tout âge, Camille Kouchner. Dans quelle mesure, je me suis demandé, est-ce que ça vous engage ? Est-ce que ça vous donne une responsabilité ?
Aujourd'hui, je la mesure, oui, ça me donne une responsabilité. Je mesure cette responsabilité en recevant beaucoup de lettres, beaucoup de mails, beaucoup de messages sur Instagram qui me sont adressés ou en tout cas qui sont un partage. Voilà. Et ce partage-là, je crois qu'il faut que je continue à le porter un peu, à porter cette parole-là.
160 000 enfants victimes d'inceste par an en France. Quelle réponse aujourd'hui en termes de droit, de réexamen des lois qui non seulement punissent l'inceste, mais aussi défendent et protègent les victimes? Après tout, vous êtes avocate et maître de conférence en droit.
Alors, je suis plus avocate parce que je me suis fait au maître du barreau, mais je suis maître de conférence en droit. La loi avance, c'est vrai, elle a avancé en 2021 et on ne peut que s'en réjouir. Maintenant, je pense qu'elle peut avancer encore mieux et je pense que ce sont des sujets qui nécessitent du temps et de la réflexion. La Civise avec sa tête, le magistrat Durand, j'ai l'impression qu'elle fait un travail vraiment de qualité.
D'écoute.
Et d'écoute, de proposition. Et donc j'espère qu'on va avancer et que des propositions de changement législatif vont être faites. Mais il y a toujours le droit et la pratique. On peut changer les textes, multiplier les textes, si la pratique ne change pas, si l'écoute ne change pas, si la compréhension du sujet ne change pas, les textes de loi auront bon changer, on prendra du retard.
Si la détection aussi des enfants qui ont subi l'inceste n'est pas meilleure, hein, parce que c'est ça aussi dont il s'agit.
Oui, mais cette détection, elle nécessite une meilleure écoute. On peut essayer de chercher partout. Les enfants ne sont pas en confiance, s'ils ont l'impression qu'ils ne peuvent pas confier leurs paroles, ils parleront pas.
La justice, qu'est-ce que vous en attendez concernant l'affaire qui est la vôtre? Est-ce que vous en attendez au moins quelque chose?
Non, mais moi j'ai écrit un livre, je suis pas allée chercher la justice, l'affaire était prescrite, ça a été classé sans suite, moi je respecte absolument ça. J'ai pas écrit un livre pour appeler à une condamnation du tout. J'ai écrit un livre parce que je trouve qu'il est légitime que les victimes aient le droit à la parole et le droit à leur humanité et le droit d'écrire, de parler. Appeler à une condamnation, je peux le comprendre. Et vraiment, chacun a son chemin. Moi, c'était pas du tout mon ambition. Mon ambition, c'était de dire, et en plus, moi je suis pas victime directe de tout ça. Donc c'était de décrire le chemin d'un témoin. J'ai lu plein de choses sur la vie intime des auteurs que j'adore et je me suis dit, en fait ça fait partie de mon intimité, il n'y a pas de raison que je le cache, qu'est-ce qui ferait que on puisse décrire, je sais pas, l'enterrement de son père, qu'on puisse décrire un avortement, qu'on puisse décrire, et qu'on n'ait pas le droit de dire, moi j'ai été témoin de ça.
Et c'est passionnant, voilà. Et c'est là où le livre est intéressant d'un point de vue littéraire, c'est sur son interrogation, sur le silence et sur la parole. Petit, mon frère m'avait prévenu, tu verras, ils me croiront, mais ils s'en foutront complètement. C'est ce que vous écrivez. Vous pensez à qui, là? De quelle indifférence est-ce que vous nous parlez?
Peut-être que c'est le chemin de l'histoire. Peut-être que la réflexion nécessite du temps et que à chaque étape, à chaque génération, d'une certaine manière, on avance doucement sur ces questions-là. À l'époque, en effet, il n'était pas évident que chacun puisse concevoir que s'en prendre à un adolescent, c'était forcément créer un traumatisme chez lui. Aujourd'hui, on avance. Moi, j'en suis très heureuse. C'est ça que je vois. J'ai pas écrit un livre pour condamner la génération précédente, du tout. En revanche, je suis heureuse, à l'âge que j'ai, de pouvoir participer à un débat et prendre en compte ces avancées qui me paraissent nécessaires.
Mais cette indifférence, elle est quand même intéressante. Camille Kouchner, votre beau-père, Olivier Duhamel, est-ce que vous savez s'il l'a lu, votre livre?
Je ne sais pas, mais je n'ai pas du tout envie de parler de lui. Vraiment, moi, j'ai écrit un livre, encore une fois, sans le citer d'ailleurs, pour ouvrir un sujet, voilà, et pour retrouver ma voix. Et c'était pas un livre sur lui, c'était plus un livre sur moi.
Bien sûr, mais c'est un livre qui interroge quand même le pouvoir. C'est aussi ça qui a produit la déflagration. C'est un homme de pouvoir proche des cercles de pouvoir. Je me suis demandé pour vous à quoi se mesure le pouvoir d'un individu. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec sa capacité justement à produire du silence?
Mais je pense que c'est pour ça que le livre s'appelle La Familia Grande. C'est-à-dire que il y a plusieurs dimensions à cette notion de grande. Et donc on en arrive à une certaine forme de pouvoir. Mais le pouvoir, il commence dès la famille, dès la microstructure qu'est la famille. Ça s'appelle la domination et c'est lié à la situation des parents face aux enfants. Voilà. Et ensuite, bon, bah, c'est des cercles concentriques qui s'élargissent pour en arriver à des sphères de pouvoir, en effet. C'était la spécificité de ma situation. Donc, la Familia Grande, c'était une famille qui était élargie, parce que c'est pas la structure traditionnelle de la famille, et puis qui est de plus en plus élargie, où finalement, la domination est de plus en plus forte, ça c'est vrai.
On va en reparler ensemble de domination, mais d'écriture surtout, juste après le journal de la culture quand même, que se passe-t-il donc aujourd'hui, vendredi 7 janvier ?
The answer is a female opera singer and gangster. Da, 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 da,
Elliot. Da, da.
Dernière séance, le cinéaste et acteur américain Peter Bogdanovich est mort hier. Il avait 82 ans, réalisateur du classique aux deux Oscars, La dernière séance, sortie en 1971. Il avait commencé sa carrière comme critique de cinéma avant de passer derrière la caméra dès la fin des années 60. Auteur des films La Cible, La Barbe à Papa ou encore On se fait la valise Docteur, Peter Bogdanovich restera comme l'une des grandes figures du nouvel Hollywood, mais aussi comme l'acteur du psy de la psy du mafieux Tony Soprano dans la série culte HBO. Trente ans, toujours swingant, les festivals Suresnes, Cité Danse, rendez-vous incontournable des danses urbaines, inaugurent aujourd'hui une 30e édition flamboyante. Au programme, jusqu'au 13 février prochain, 17 spectacles, 9 créations, 21 chorégraphes et 85 danseurs invités. On pourra notamment y découvrir le très féminin One Shot d'Ousmane Lee, le nouveau solo de Yann Galois, titré Ineffable, ou encore la relecture hip-hop du célèbre Casse-Noisette de Tchaïkovski, imaginé par Bianca Lee. On dit oui.
J'ai même du mal à réaliser, quoi. Je vais essayer de garder les pieds sur terre.
Big Brother is reading you. Hier, c'est l'ami Antoine Decaune qui a eu l'honneur de révéler le nom de l'heureux lauréat du prix BD Fnac France Inter 2022. Résultat, c'est la relecture du classique de George Orwell par l'auteur et dessinateur français Xavier Coste, 1984, qui emporte la mise. Un ouvrage publié chez Sarbacane où la puissance des illustrations portées par un trait minimaliste et l'omniprésence de la couleur rouge sublime l'intemporelle dystopie orwellienne au top. Pop, pop, pop.
De toutes ces dents, je me surveille.
Et enfin, Fishback, back dans les bacs, 5 ans après la sortie de Atta Merci, son beau premier album, la chanteuse ardennaise Flora Fishback s'apprête à livrer en février son deuxième opus studio. Et pour nous faire patienter jusqu'au mois prochain, elle a révélé hier le clip de Téléportation, le premier single de son disque à venir, clair-obscur forestier, veste de cuir et voix de tête. Fishback réactive son univers poétique, magnétique, ensorcelant. Rendez-vous en fin d'émission pour découvrir un autre de ses nouveaux morceaux, le tonique Masque d'or, on adore. Et l'autrice Camille Kouchner, invitée de Boomerang ce matin pour La Familia Grande, qui sort en poche aujourd'hui. Ce livre, on l'a compris, qui n'est pas seulement un témoignage, qui est aussi un acte littéraire. Dans quelle conception de la littérature est-ce que vous avez grandi, Camille?
Est-ce qu'il y a des conceptions de la littérature?
Il y a des familles où les livres existent, et d'autres où les livres existent moins.
Alors moi, comme j'ai essayé de le dire, j'étais absolument libre depuis que j'étais petite de choisir mes lectures. Résultat, le spectre est assez large. Il y a beaucoup de livres qui m'ont marqué ces dernières années, et notamment au moment où j'étais en train d'écrire. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je citais L'enterrement du père tout à l'heure, parce que je pensais à Anne Polly avant que j'oublie.
Oui.
Voilà, il y a plein de chemins intimes que j'ai lu et où j'ai vu de l'universel et où j'ai été attrapée absolument, et j'ai trouvé que l'humour faisait tout, j'ai trouvé que la construction faisait tout. J'étais très heureuse de découvrir plein de lectures.
Mais si on revient aux origines de votre parcours de lectrice, votre mère, grande professeure de droit public, quelle lectrice est-ce que c'était?
Ah, c'était une immense lectrice. Elle lisait tout le temps, ma mère. Elle avait un bouquin ouvert en permanence, et elle était moi, elle me berçait d'Aragon. Voilà. Mais en même temps, elle posait des livres, voilà, un peu partout dans la maison. On avait des bibliothèques qui remplissaient tous les murs, et elle me donnait aucune directive.
Ah, c'est ça qui est très intéressant. Vous dites que jamais elle vous a tendu un livre, qu'elle préférait vous regarder faire.
Oui, mais elle me racontait son lien bien à chaque livre. Et je crois que je fonctionne un peu comme ça maintenant. C'est-à-dire que elle me disait, bah tu vois, Aurélien Dragon, c'est quand j'ai rencontré un tel et que on a discuté tellement de voilà. Ensuite, elle me disait ça, cet ami-là, c'est mon lien à cet ami-là, c'est telle lecture, etc. Et donc c'est comme ça que j'avais envie de découvrir un peu son univers à elle. C'était par la lecture.
C'est une conception de l'éducation, en fait, ça.
Moi, c'est une conception de l'éducation que j'ai adorée et que j'essaye de reproduire un peu. C'est-à-dire que c'est cette liberté et cette liberté qui est guidée par la curiosité. Voilà.
Elle disait, vous écrivez, qu'éduquer n'est pas transmettre. Cette phrase, comment vous l'entendez? Qu'est-ce qu'elle voulait dire, Camille Kouchner?
Je pense qu'elle voulait n'imposer aucun de ses choix. Voilà. Elle peut-être c'était plus elle misait sur le modèle qu'elle représentait, mais sans aucune injonction à lui ressembler. Donc c'est ce que je dis souvent, tout devait être compris mais rien n'était expliqué. Donc voilà, il y avait moi j'avais envie d'aller jusqu'à elle. J'avais envie de pouvoir discuter avec elle et pour pouvoir discuter avec elle, il fallait quand même que je partage certaines de ses lectures, mais jamais elle m'aurait dit tu dois lire ça.
Pour autant, qu'avez-vous l'impression avec le recul qu'elle vous ait transmis?
Non mais ma mère, elle m'a... Je l'ai déjà dit, mais je ne sais pas comment le dire autrement. Ma mère, elle m'a appris à penser. Voilà. Elle m'a appris à concevoir une pensée, à voir le monde, à voir la subjectivité de chacun et à faire avec. Non mais ma mère, elle était... Franchement, elle était extraordinaire.
Vous savez, si je vous pose ces questions, Camille Kouchner, c'est aussi parce que moi, ce qui m'a passionné dans la Familia Grande, c'est justement tout ce que vous racontez sur votre mère et sa famille. Et tout cet aspect de votre livre, j'ai l'impression qu'on vous a assez peu interrogé dessus, en fin de compte, alors même que votre livre s'ouvre sur la mort de votre mère. Pourquoi avoir choisi ce point de départ, d'ailleurs?
Mais parce que c'est d'une certaine manière aussi le moment où je redeviens sujet. C'est-à-dire que elle était tellement présente dans ma vie, même si elle s'était éloignée à la fin. Mes choix, ma manière de réfléchir le monde commençait par une question qui était qu'est-ce qu'elle en penserait, elle? Voilà. Et alors, elle persiste cette question. Évidemment que je me dis ça. Mais avec sa disparition, c'est comme je n'ai pas forcément de réponse, je suis sujet autrement.
Ce que vous nous dites, c'est que c'est aussi pour elle que vous l'avez écrit, ce livre?
Bien sûr que c'est pour elle. Et parce que je me suis posé la question de savoir si c'était un livre de rupture ou un livre de transmission. Et en fait, je pense que c'est un livre de transmission. Alors, il y a des ruptures violentes, mais parfois, il faut une bonne rupture pour mieux se réunir. Et je crois que c'est beaucoup grâce à elle que j'ai écrit ce livre. Beaucoup grâce à ma grand-mère, beaucoup grâce à ma tante. Et je pense que cette conviction que j'avais que ce livre pouvait avoir une vocation universelle, pouvait rendre compte de quelque chose qui nous unissait tous, c'est elle qui m'a appris ça.
Pensez-vous qu'elle vous l'aurait pardonné, ce livre? Je vous pose la question parce qu'elle est centrale, cette question du pardon dans votre livre.
Bien sûr qu'elle est centrale. Est-ce qu'elle m'aurait pardonné? Oui, elle m'aurait pardonné. Elle m'aurait pardonné en me faisant la guerre. Mais elle m'aurait pardonné.
Vous êtes venu avec un poème ce matin?
Je suis venu avec un poème parce que c'est un poème qui me fait immensément penser à elle. Et c'est un poème, en plus, que j'ai trouvé joli parce que je l'ai découvert le 7 janvier, enfin à l'occasion du 7 janvier 2015 aujourd'hui. Donc on est le 7 janvier. Christiane Taubira a rendu hommage à Tinius en faisant un discours que j'ai trouvé magnifique. Et j'ai découvert à l'occasion de son discours, qui vantait aussi beaucoup la liberté d'expression, ce qui est quelque chose de très important aussi pour moi dans ce livre, j'ai découvert un poème d'Éluard. Et ce poème d'Éluard, qui s'appelle « Dit de la force de l'amour », me fait beaucoup penser à ma maman. Alors je voulais vous le lire. J'essaye de bien le lire, mais c'est voilà, je suis... Alors, entre tous mes tourments, entre la mort et moi, entre mon désespoir et la raison de vivre, il y a l'injustice et ce malheur des hommes que je ne peux admettre. Il y a ma colère. Il y a les maquis couleur de sang d'Espagne, il y a les maquis couleur du ciel de Grèce, le pain, le sang, le ciel et le droit à l'espoir pour tous les innocents qui haïssent le mal. La lumière toujours est tout près de s'éteindre, la vie toujours s'apprête à devenir fumier. Mais le printemps renaît qui n'en a pas fini. Un bourgeon sort du noir et la chaleur s'installe. Et la chaleur aura raison des égoïstes, leurs sens atrophiés n'y résisteront pas. J'entends le feu parler en riant de tiédeur, j'entends un homme dire qu'il n'a pas souffert. Toi qui fus de ma chair la conscience sensible, toi que j'aime à jamais, toi qui m'as inventé. Tu ne supportais pas l'oppression ni l'injure, tu chantais en rêvant le bonheur sur la terre. Tu rêvais d'être libre et je te continue.
Ce que vous nous dites, Camille Kouchner, j'ai l'impression, c'est que vous, en tout cas, vous lui pardonnez.
Bien sûr que je lui pardonne. Bien sûr que je lui pardonne, mais parce que en faisant un peu le tri dans mes pensées, est-ce que elle a des choses à se faire pardonner? J'en suis même pas si sûre, en réalité. Elle n'a pas été à la hauteur de elle a pas eu la réaction que j'attendais. Mais elle n'a rien commis. Donc, et puis bon, pardonner, il faut avoir le pouvoir de pardonner. Moi, ce que je veux dire juste là, comme le dit ce poème, c'est que je reste dans un lien d'amour avec elle. Voilà.
On va reparler, évidemment, d'amour, de mère, juste après John Lennon, qui parlait de sa mère, justement. C'est une chanson que j'aime beaucoup, qui s'appelle Julia, en 1968, sur l'album The Beatles. Vous êtes sur France Inter avec Camille Kouchner. Vous écoutez Boomerang.
Half of what I say is meaningless, but I say it just to reach you, song of love, Julia, Julia, seashell eyes, windy smile calls me, so I sing the song of love, Julia. Sky is shimmering, glimmering in the sun. Julia, Julia, morning moon, touch me, so I sing the song of love, Julia. When I cannot sing my heart, I can only speak my mind,
Boomerang, Augustin Trapenard.
Il y a chez elle une grande douceur, une politesse, une sorte d'inquiétude aussi qu'on a un peu de mal à cerner, le regard bleu, l'air très sérieux, tout en noir. Ce matin, Camille Kouchner, invitée de Boomerang pour La Familia Grande, ce livre qui paraît en poche aujourd'hui et qui revient, on le sait, sur l'inceste qui a brisé votre famille, mais surtout un livre sur le silence, sur ce que c'est aussi que de se taire. Comment, vous qui pourtant avez grandi dans une famille qui encourageait sans cesse à prendre la parole, avez-vous appris, presque malgré vous, à vous taire ?
Ah, je ne sais pas si j'ai appris à me taire, parce que finalement, on apprend à parler. Peut-être que se taire, c'est quelque chose qui est plus naturel. Moi, il y avait beaucoup d'exigences autour de moi, donc on avait le droit de parler, mais il fallait savoir choisir ses mots. Et donc, quand on a l'impression qu'on n'a pas les mots, ben on se tait. Cette exigence-là, elle est un peu terrorisante d'avoir les bons mots. Donc, d'abord, il fallait réussir à concevoir les choses pour pouvoir les énoncer. Et là, c'était en amont, c'est-à-dire que avant d'avoir les mots pour le dire, les concevoir était paralysé. Donc, j'avais du mal à. C'était pas si difficile de me taire. Au début.
Pourtant, dans quelle mesure la littérature et l'écriture permettent justement de briser le silence ?
Mais parce que elle vous donne les mots. Et à partir du moment où elle vous donne les mots, vous pouvez ensuite les reproduire et les faire vôtres. Donc, moi, c'est le fait d'avoir lu.
Oui, c'est ça.
Avant d'avoir écrit.
Je pense notamment au livre de Vanessa Springora, par exemple, Le Consentement, paru un an avant le vôtre. Dans quelle mesure a-t-il contribué à vous faire sortir du silence ? Je sais que ça a beaucoup compté.
Mais ça a immensément compté, parce que, en fait, ce titre qui est absolument génial, Le Consentement, tout est là. Qu'est-ce que ça veut dire consentir ? Le fait qu'elle ait choisi ce titre-là, et d'ailleurs, elle, moi, je trouve son livre remarquable parce que il y a aucune animosité. C'est juste elle explique. Voilà. Et elle appelle ça consentir. Alors, est-ce que j'ai consenti ? Est-ce que je n'ai pas consenti ? Est-ce que c'est une question qui se pose à cet âge-là ? Et évidemment que ça a été, pour moi, ça a été libérateur, parce que c'était les questions que je me posais aussi. C'était l'abîme d'angoisse dans lequel j'étais.
Mais pour vous, c'était encore plus difficile de parler, Camille Kouchner, de prendre la parole, lorsqu'on évoque des faits, en l'occurrence l'inceste, qui ne vous sont pas arrivés directement, mais à un proche, à un frère, à un jumeau.
Oui, absolument. Ça, c'est quelque chose de qu'on doit régler avec soi-même. C'est-à-dire à quel moment on se détache et on se dit il n'y a pas qu'une seule voix VOIX. On a le droit d'avoir deux voix. Et donc j'ai le droit d'avoir la mienne alors que il ne m'est rien arrivé directement. C'est une vraie question. C'est difficile. Ça l'est toujours hein, d'assumer ça, de dire moi je ne suis pas d'accord. Voilà, moi je ne suis pas d'accord avec le fait de nous maintenir dans le silence.
Jusqu'à ta mort, Victor, maman, Victor et moi ne formions qu'un. C'est une phrase qui m'a beaucoup marqué. Au fond, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça implique d'être jumelle ? D'avoir un jumeau ? Quel lien ? Est-ce que c'est ?
C'est très difficile parce que... c'est très difficile de l'expliquer parce que ça nécessite d'avoir un point de vue extérieur. Ouais. Ce que je n'aurais jamais.
Alors c'est intéressant. Donc, je vous pose la question en fait parce que ce lien très fort, fraternel, c'est quelque chose que vous ne cessez d'explorer dans votre livre, notamment à travers la relation entre votre mère Evelyne et sa sœur Marie-France Pizier. Quelles sœurs étaient-elles l'une pour l'autre ?
Bah, elles étaient en effet très 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 proches. Elles étaient très proches dans leur complicité, dans leur lutte contre l'extérieur, dans leurs ambitions, dans leur chemin. Et elles étaient unies dans l'amour qu'elles avaient pour leur mère. Voilà. Et ça, c'est quelque chose chez nous qui est très très fort, parce que je pense que à la génération suivante, c'est-à-dire à ma génération, avec mes cousins, on est aussi très très unis là-dedans, dans l'amour qu'on a pour nos mères, et parce qu'elles sont des modèles, parce que elles ont été formidables avec nous, vraiment.
Quel soutien est-ce qu'elle a été pour les enfants, Marie-France Pizier, justement ?
Ah bah Marie-France, de la même manière que ma mère, elle était un modèle. Voilà, donc je ne sais pas si c'est une histoire de soutien, c'est une histoire de modèle qui est moi que j'ai trouvé dans mon livre. Je parle d'élégance. Pour moi, c'est l'élégance absolue, l'élégance morale, l'élégance. D'abord, elle était magnifique, mais c'est une autre question. L'élégance dans son rapport à l'autre, elle était absolument généreuse. Elle était, moi, je la trouvais sensationnelle.
Pour terminer cette émission, Camille Kouchner, vous nous avez écrit un texte et j'aimerais que vous nous le lisiez.
Alors, ce texte, voilà, je suis heureuse que vous me l'ayez demandé. Cette année, j'ai lu Emma, Elsa, Anna, Nathalie, Didier et tant de merveilleux auteurs. Cette année, tant de gens ont écrit. Tant de gens ont choisi avec Duras de hurler sans bruit. Invités à libérer la parole, ils ont, auprès de moi et par l'écriture, préféré se taire. Ils ont dit, en savourant la possibilité de ne pas parler. Avant cette année, j'avais évidemment réfléchi à l'acte d'écrire. Nourri de la beauté des mots de Semprin, j'avais perçu que l'écriture ne serait pour moi ni un jeu ni un enjeu, mais plutôt une façon de se déprendre de soi en prenant sur soi. Je voulais, par l'écriture, mettre au monde l'autre que l'on est toujours. Machado m'ouvrait la voie, je construisais mon chemin et tentais de m'en remettre à la joie avant la volonté comme je le faisais petite fille. Je choisissais de devenir ce que je suis. Cette année, l'une de mes plus belles rencontres a commencé par ce mail. Chère Camille, en vous écrivant, j'ai souvent eu l'impression de marcher sur une longue plage de sable vert. Une plage d'un vert intense qui prolonge la lumière et retient le bruit. Sans vraiment savoir pourquoi, et au risque de paraître un peu folle, cette impression, je voulais vous la partager. Peut-être parce que lire les autres permet finalement de donner une forme, un contour, à ce qui ne fait pas sens chez soi, comme des mots-images, comme des plages de sable vert. Cette année, et en lisant ce mail, j'ai à nouveau réfléchi à l'acte d'écrire, mais j'ai surtout mesuré ce que c'était qu'être lu. Aujourd'hui, je le sais, le lecteur restitue son humanité à l'auteur. Quel que soit l'endroit où il la signe, il le met en lien. En lisant à mon tour tous les récits qui m'étaient envoyés, j'ai su l'importance et la beauté des silences. Silence par la forme, silence dans le fond, ce que seul permet la littérature. Je ne sais pas comment remercier chacun de tant de partages. Juste peut-être les inciter à écrire encore et encore. Et avec Paul Celan leur dire, il est temps que la pierre se résolve à fleurir. Il est temps qu'à l'incessante absence de repos batte un cœur. Il est temps que le temps advienne. Il est temps.
Merci infiniment, Camille Kouchner, d'être venue dans Boomerang. Ce matin, je rappelle que La Famille Agrandée vient de paraître aujourd'hui chez Point en édition de poche. Et j'invite aussi les auditeurs et auditrices à lire le dossier très fort qui est consacré dans l'Obs cette semaine au pouvoir de la parole et dans lequel vous intervenez tout de suite les médias. Sonia De Villers et son Instant M, juste après ça.
Oh mon petit feu de Paris.
Fishback, Masque d'or, 9h40 sur France Inter, Sonia Devillers, l'instant M. Salut chère Sonia.
Eh ben salut cher Augustin, et à lundi.
À lundi.